ce matin en Beauce.
On n'a pas idée comment la fermeture des restaurants a eu un impact incroyable sur l'agriculture. Vous avez vu que nos producteurs laitiers ont été obligés de jeter littéralement aux mouches des milliers de gallons de lait. Les œufs, ça représente... on a été obligé de refaire entièrement la façon d'empaqueter les œufs, parce que les œufs, de la manière dont ils sont empaquetés pour les restaurants, c'est quelque chose de travailler
oui,
là-dedans.
Tout à fait.
Ça arrive en caisse de combien, ça?
C'est une cinquantaine, 100-150 œufs dans une caisse.
Dans une caisse?
Ouais.
Ouais, c'est moi, le plus gros que j'ai, c'est 18.
C'est ça.
Ouais.
Ben, tu sais, ils vendent les gros crêtes, là, mm-hmm. tu sais, qu'on voit, là, ben, en pilsant à peu près 6 dans okay. une caisse. Ou 8 même, dans ouais. certaines.
Et ben ça a eu ça a également effet sur ben de la viande là, qui se vend pas. On a parlé avec les producteurs de veau, vous en souviendrez, qui se disent nous autres c'est là, dans la restauration qu'on vend en grande partie nos produits. Et pour parler de tout ça, ça m'a surpris. Je l'ai pas vu encore à côté de M. Legault dans une conférence de presse quotidienne. M. André Lamontagne. Bonjour, M. Lamontagne.
Hey, bonjour, M. Cloutier, comment allez-vous?
Ça va très bien. Comment ça qu'on vous a pas vu encore à côté de M. Legault? Si parce que l'agriculture s'en sort mieux que le reste de l'économie?
Ben, je vous dirais c'est les prérogatives là, du premier ministre en fonction des préoccupations des citoyens, en fonction des annonces qu'il y a à faire, en fonction des suivis qui se fait quotidiennement là, sur toute l'évolution de la pandémie, puis la réponse, l'impact dans la santé. On s'entend que c'est la question de la santé, ça a comme occulté un peu toute la place, là. Mais on a vu quand même le premier ministre à plusieurs reprises souligner l'apport, l'importance, les remerciements à toute la chaîne de production agricole, à nos transformateurs.
Oui, effectivement. Mais ça, les remerciements, ça enlève pas les problèmes.
Oui, tout à fait. Ben écoutez, on a eu des enjeux quand même assez extraordinaires, si on veut, depuis le début, là, pour tout ce qui est la chaîne bioalimentaire. Puis je vous dirais, à partir du jour 2 ou du jour 3, là, moi, j'ai mis en place vraiment une cellule de crise, si on veut, là, où on retrouvait tous les secteurs de la chaîne bioalimentaire, là, de la production jusqu'aux camionneurs, la transformation, les intrants, les abattoirs et tout ça. Puis tous les jours, jusqu'à peut-être 2 semaines, là, on se parlait tous les jours, 7 jours par semaine, à 9h30 du matin, pour identifier là, les problèmes qu'on avait, puis de se mettre vraiment en mode solution à l'intérieur de la filière, mais aussi nous, de notre côté, au cabinet, avec les fonctionnaires, avec le bureau, la cellule de crise au gouvernement. Il y a eu beaucoup, beaucoup de travail qui a été fait là, jour après jour pour chercher justement à mitiguer puis à être aidant dans cette espèce de choc-là qu'on a eu là, suite au confinement. Là.
Est-ce que quel a été le pire problème auquel vous avez été confronté?
Ben, je veux dire, il y a eu plusieurs problèmes difficiles, mais je dirais un enjeu là qui est encore, je dirais, qui est fragile, là, mais qui est quand même sous contrôle. Là. C'est toute la question de la gestion du vivant, là. Toute la question des abattoirs, parce que la production animale à des fins de consommation, on s'entend, là, c'est excessivement séquencé. Là. Tu sais, c'est exemple, la production porcine, ça s'étend sur 7 mois. Alors, il y a plein de gestes qui sont posés, puis qu'à un moment donné, ça culmine par le fait que les bêtes sont abattues pour après ça être transformées puis être dirigées vers les différents marchés. Bien, on s'est ramassé rapidement en début de pandémie avec 2 choses. Des protocoles qui étaient imposés par la santé publique qui étaient complètement mésadaptés avec les environnements de transformation. Puis deuxièmement, tôt, on a eu une éclosion importante dans une très grosse abattoir au Québec qui est à Yamachiche, qui fait qu'en l'espace de quelques semaines, là, je dirais 2 semaines, on s'est ramassé dans une situation qui a frôlé un peu la catastrophe. Là. Alors, de retourner ça de bord, ça a commencé par vraiment mettre en place là, un comité national, santé publique, CNSST, le MAPAC, le MTES, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, pour avoir un protocole national qui colle à la réalité des abattoirs, puis s'assurer que quand une situation qui arrivait dans les abattoirs, ben tout de suite, ça soit référé à ce comité national-là pour que le suivi puis l'encadrement de l'entreprise puisse se faire, mais de façon aussi à préserver la capacité d'abattage des entreprises. Alors ça, je voudrais que ça a été, Il y a eu plusieurs défis, M. Cloutier, honnêtement. Il y en a eu plusieurs, mais ça a été. C'est encore un défi, là, mais on a frôlé une situation très, très difficile. Là.
OK. Est-ce qu'on est encore dans cette période où il y a risque d'euthanasier des porcs ou si on peut dire que la situation est revenue un peu à la normale?
Non, je vous dirais pas que la situation est revenue à la normale, mais je vous dirais que dans les premières semaines, si ça avait continué, on n'avait pas pu ajuster les protocoles et puis il y avait eu continuer à avoir des éclosions d'infection dans les usines, on s'en allait vraiment à l'accident. Là, on est dans une situation où vraiment les usines au Québec ont des protocoles de santé vraiment extraordinaires. Le travail qui est fait dans chacune des usines est extraordinaire. Les protocoles qui sont en place sont vraiment adaptés à l'industrie. Le marché est très bon, le prix du porc, le prix et tout ça. Là. Fait que tout est en place pour que la filière, les producteurs et les transformateurs s'entendent pour réduire, puis aller vers une réduction de ces parts-là qui sont en attente. Là.
OK. Le lait, lui, maintenant?
Bien, le lait, encore là, on est passé, là, en l'espace de quelques jours, on a eu, vous mentionnez avant l'entrevue, là, l'impact de la restauration. La restauration, là, c'est 35% un peu là, de la consommation de la production, c'est 60%, exemple, nos transformateurs, 60% de la crème destinée au restaurant, c'est produit au Québec. Vous avez mentionné toute la question des formats et tout ça. Alors, en l'espace de quelques jours, une semaine, 10 jours, là, on a vu un effondrement, oui, de la restauration. On a vu, naturellement, ça l'a augmenté dans l'alimentation en détail, mais d'arrimer tout ça, ça a été compliqué. Puis aussi, les consommateurs ont changé aussi leur certaines demandes qu'ils pouvaient avoir. Alors, l'industrie laitière, on sait que c'est la gestion de l'offre, c'est canadien. Puis au Québec aussi, on fait partie, on appelle ça du P5 avec l'Ontario et les provinces maritimes. Alors, de mettre en place des mesures pour venir mitiguer et atténuer l'impact de ces changements drastiques-là au point de vue de la demande, bien, ça a pris quelques semaines à l'industrie, mais honnêtement, il y a du travail extraordinaire qui a été fait de la part des producteurs. Après ça, on a fait des représentations importantes avec eux, les transformateurs, auprès de la Commission canadienne du lait, auprès du gouvernement fédéral, parce que le Comité canadien de gestion des approvisionnements laitiers a pris aussi des décisions qui allaient permettre de stockage, puis de la transformation, puis de stockage aussi de produits. Alors, tout ça ensemble, ça a pris quelques semaines, mais encore là, on dirait, là, où on est depuis quelques semaines déjà, ça s'est stabilisé. Et puis, les productions là, rencontrent les besoins. Là.
Bon, donc, l'agriculture, on peut dire que c'est pas mal stabilisé. Maintenant, où on a énormément de problèmes, c'est avec les producteurs maraîchers, la main-d'œuvre, même si on a incité beaucoup de Québécois à venir s'ajuster, venir s'ajouter, c'est-à-dire à la main-d'œuvre étrangère, c'est pas un gros succès.
Bien, ce qu'il faut comprendre, M. Cloutier, quand on était, mettons, au mois d'avril, début d'avril, fin mars, on contemplait ce qui s'en venait au point de vue des travailleurs étrangers. Puis, un, il faut comprendre aussi qu'au Québec, la part des travailleurs étrangers au Québec, l'Ontario, toutes les provinces canadiennes, la part des travailleurs étrangers est très, très importante, surtout de la période, là, on dirait, de mai à octobre, là, pour pouvoir faire les récoltes qu'on est capable de faire au Québec. Puis quand on était à la fin mars, mois de début d'avril, les perspectives de voir ces travailleurs venir au Québec, là, au Canada, c'était... Écoutez, on regardait et on disait, écoutez, est-ce qu'il va pouvoir y avoir des travailleurs étrangers? Alors, avec l'UPA, avec AgriCarrière, qui est la table de concertation en main-d'œuvre, on s'est assis et on dit, bon, ben, mettons en place un programme pour chercher à attirer les Québécois au champ pour venir prêter main-forte. Fait qu'il y a deux choses qui s'est passées. Une première des choses qui s'est passée, c'est que, contrairement à ce qui avait été prévu, il y a des bonnes nouvelles qui sont arrivées qui font en sorte que, au 30 avril, là, il y a 85% des travailleurs étrangers qui étaient originairement attendus, qui sont effectivement arrivés. Alors, exemple, je pense qu'au 30 avril, il était attendu 3 900 travailleurs de mémoire, puis il en est arrivé à peu près 3 400. L'autre chose aussi qu'on a fait, quand on a fait l'appel au champ au 17 avril, il y a eu un grand succès, si on veut. Effectivement, il y a eu près de 9000 personnes qui ont signifié à ce jour leur intérêt puis qui ont envoyé leur CV en guillemets. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les besoins en travailleurs, il y en a un peu en avril, mai, après ça, beaucoup plus en juin, juillet, ou alors ça s'étend dans le temps. Puis les producteurs ont des contrats pour les travailleurs étrangers. Ils ont des engagements avec des travailleurs étrangers. Alors, au fur et à mesure que les semaines vont passer, et puis qu'on va voir si ces contrats-là vont se matérialiser, ben il y a davantage ou moins de travailleurs québécois qui vont être sollicités. Jusqu'à maintenant, là, on me rapporte qu'il y a à peu près 300 jumelages qu'il y a eu entre des entreprises agricoles et puis des travailleurs. Fait que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça, c'est géré vraiment dans les 12 centres d'emploi agricole du Québec. Alors, quand il y a des besoins qui sont là, dans les différentes régions, si un producteur manifeste un besoin auprès de son centre d'emploi agricole, ben il y a un jumelage là qui peut être fait. Mais la question du succès du programme, les gens sont au rendez-vous. Le besoin est moins grand que ce qui avait pu être estimé au départ, mais en même temps, ben le besoin, en mois de mai, mois de juin, c'est là que ça va aller en s'accroissant, puis on va voir avec la part des travailleurs étrangers quel est l'écart qui va devoir être comblé. Là.
Pourquoi on n'est pas capable d'être autosuffisant en main-d'œuvre de ce type-là? Pourquoi? Si tu penses, qu'est-ce qu'ils ont, ces gens du Guatemala? Sont-ils plus flexibles que les Québécois? Qu'est-ce que c'est qui fait qu'ils sont si bons puis si meilleurs que nous autres?
Ben, écoutez, ça remonte à des années, puis c'est pas propre au Québec, le fait que dans plusieurs secteurs, on a une main-d'œuvre qui semble être moins disponible ou qui trouve moins preneur au Québec, parce que la question de faire venir des travailleurs étrangers dans le milieu agricole au Québec, là, je pense que ça remonte à une vingtaine d'années où ça a commencé. C'est certain que depuis plusieurs années, ça a pris une ampleur considérable. Puis si on regarde nos voisins en Ontario, la Colombie-Britannique, écoutez, c'est l'intérêt des citoyens pour ce genre de travail-là, l'attrait aussi, les conditions et tout ça, c'est un mélange, là, si on veut, là, on retrouve des enjeux qui peuvent être similaires avant la crise, on trouvait des enjeux similaires dans la restauration, on trouvait des enjeux similaires, si on veut, dans le tourisme au niveau des hôtels, sont des emplois qui trouvent moins preneurs depuis un certain nombre d'années, si on veut, au sein de la population.
C'est rough, hein? C'est un travail qui est dur physiquement et puis exigeant, puis qui demande plusieurs heures consécutives là, pendant la période intensive, soit des récoltes ou de la plantation. Maintenant, parlons de la restauration. Vous en êtes responsable de tout ça. Combien vous pensez qu'il y en a qui vont être en mesure de reprendre leurs activités en pourcentage?
Ah, écoutez, je peux pas mettre de pourcentage, là. On a, je pense, à peu près 20 000 restaurants au Québec. J'ai été encore sur notre comité dont je vous parlais, M. Cloutier. Là, on avait justement les restaurateurs à tous les jours. On était en contact avec eux. À savoir comment tout ça va se terminer pour l'industrie de la restauration, comme pour le tourisme. Écoutez, c'est très, très difficile à dire. Ce qui est encore plus difficile, c'est que le scénario encore de reprise n'est pas établi. La bonne nouvelle, il y a quelques semaines, j'ai mis sur pied une table de concertation avec l'industrie pour être proactif avec la CNSST pour déjà établir les pratiques sanitaires qui vont devoir prendre place quand l'industrie va réouvrir. Alors, puis je vous dirais qu'il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait, là, puis au cours des prochains jours, la prochaine semaine, là, l'industrie devrait pas mal avoir s'être entendue avec la CNSST et la Santé publique sur les protocoles à mettre en place. Mais la réouverture, puis si on veut dire dans quel contexte la réouverture va se faire de la restauration, encore là, c'est un inconnu. Fait que je vous dirais que c'est certainement une situation qui est très, très difficile. Il y a plusieurs secteurs de l'activité économique, on s'entend, M. Cloutier, que c'est très, très difficile, là. Mais pour la restauration, c'est certainement un secteur là, qui est très, très touché. Là.
Est-ce que vous surveillez ce qui se fait en Europe?
Honnêtement, ce qu'on voit en Europe, ben c'est dans plusieurs pays, il y a une reprise qui est déjà amorcée. Alors, on voit que dans plusieurs endroits, ils cherchent à utiliser davantage des espaces publics. Pour faire un exemple, je pense en Lituanie, la ville de Vilnius a une très, très grande place publique, puis elle a vraiment mis en place des mesures pour qu'il y ait beaucoup de restauration qui puisse se faire dans ces espaces publics-là, mais dans un contexte aussi de distanciation. Alors, il y a des initiatives au Québec, on le voit dans des municipalités qui veulent exactement faire la même chose. Moi, dans mon comté, exemple à Drummondville, là, la municipalité est en train de chercher à mettre en place des formules comme ça. Mais les règles qui vont devoir être appliquées ici, naturellement, mais ce sont les règles qui vont être dictées par la santé publique, là, qui est propre ici à comment la santé publique aborde cette question-là au Québec. Là.
Est-ce qu'on peut penser que d'ici la fin juin, on pourrait voir renaître certains restaurants?
Ah, honnêtement, ça, je peux pas vous donner cette réponse-là, M. Loutier. C'est vraiment dans les mains de la santé publique. C'est sûr qu'à titre de ministre de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation du Québec, là, mon souhait, puis aussi à titre de citoyen qui constate les difficultés de toutes ces entreprises-là, ben, mon souhait, c'est que ça puisse reprendre. J'allais dire revenir à la normale, mais revenir à la normale, vous et moi, on sait que c'est un vœu là, qui on ne sait pas quand est-ce que ça va venir, la normale, mais que l'industrie puisse recommencer à s'exprimer puis à servir des clients et tout ça, là, c'est mon souhait comme citoyen puis comme ministre, là, c'est mon souhait le plus cher, là, que ça puisse se faire le plus rapidement possible. Là.
Merci beaucoup, M. Lamontagne, de nous avoir accordé cet entretien ce matin. C'est très apprécié.
Ça a été un plaisir. Ouais. Écoutez, j'entends souvent parler de vous. J'ai mon collègue Samuel Poulain. Là, ah ouais. Je pense qu'il n'a que des bons mots toujours à me dire de Cool FM. Alors, quand j'ai vu sur mon agenda que je m'entretenais avec vous ce matin, là, j'accueillais ça avec un grand sourire.
On est probablement la station la plus informée en matière d'agriculture au Canada.
Bon, ben salutations à tous vos auditeurs. Là. C'est pas très un plaisir d'être avec vous ce matin.
C'est pas très sexy parler d'agriculture dans certaines stations de grandes villes. Merci, M. Lamontagne. À une prochaine.
Portez-vous bien. Au revoir.